Monstre parisien, les étrangères. Mon cher ami, dit le complaisant parleur, je sais beaucoup de choses parce que j'ai 50 ans, une perspicacité suffisante, une excellente mémoire et que je ne me grise jamais. Un homme qui soupe depuis 20 ans dans tous les mondes, chez Madame de Porte à l'Aigle, à l'Hôtel Montagna ou au Café Anglais avec de la mer, et qui peut vider impunément chaque nuit 3 bouteilles de champagne, ne doit plus rien ignorer, à moins qu'il n'ait l'oreille singulièrement dure, de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans la société contemporaine. Tournez la manivelle, je suis le phonographe de tous les potins du 5e siècle. Feuilletez-moi, je suis le bottin de toutes les adresses mystérieuses dans tous les quartiers, l'almanach de Gotha, de tous les adultères, de toutes les bâtardises. Je vous dirai, avec l'infaillibilité d'un bon élève qui récite sa fable, le nom, la race, la fortune, le mari, l'amant ou les amants des 100 femmes qui sont dans ce bal. Je sais où la baronne de Cantelos se fait conduire 2 fois la semaine, voilée d'une triple voilette dans un fiacre à galerie. Ce n'est ni chez une amie, ni chez un ami. Et pour peu que vous soyez curieux d'en être instruit, je vous apprendrai pour qui Madame de Villabianca a vendu à Réméré chez un bijoutier du Palais Royal l'une de ses merveilleuses boucles d'oreilles. Il n'y a plus que celle de l'oreille gauche qui soit en diamant vrai. Mais, par pitié pour mon amour propre de cicérone parisien, ne m'interrogez pas. Ne m'interrogez jamais sur le compte de cette alléchante personne tombée après la valse dans un fauteuil là-bas et qui bâille un peu pour montrer ses gencives de jeune louve pendant que vous la regardez avec des yeux d'agneau prêt à bélier de tendresse. Car il y a peut-être sous le ciel, quelque part, un prodigieux savant qui, à force d'antiques manuscrits compulsés, à force de déductions rigoureusement enchaînées, a découvert en quelle hutte souterraine du pays des Samoyèdes se cache le livre perdu de la Bible, où sont restées les guerres de Jéhovah. Mais aucun être vivant, pas même moi, ne peut se vanter d'avoir percé le mystère qui enveloppe la marquise de Poleastro. « Bon, dit Valentin, mais on connaît du moins son nom, et son pays, puisque son nom est italien. On connaît un nom, on suppose un pays. » Les gens qui voyagent, j'ai un peu trop négligé personnellement ce côté de l'apprentissage mondain, racontent à voix basse qu'en Italie, où elle visitait les musées avec un air de jeune fille, en compagnie d'un vieillard décoré, elle s'appelait Mademoiselle de Valclos. Qu'en Angleterre, où on la croyait mariée, on disait d'elle la princesse Saratov. Et qu'en Russie, où elle était veuve, elle se faisait annoncer dans les bals d'ambassade sous le nom de Lady Emsford. Les gens ne sont pas bien sûrs, à vrai dire. Ils croient se rappeler, ils peuvent se tromper, il y a quelques années déjà. Pour ce qui est de la marquise elle-même, si quelque curieux mal avisé se hasarde à faire devant elle allusion à ce passé trouble et divers, elle ne semble pas gênée, ou pas le moins du monde. Et elle répond, sous les coups d'éventail léger, « Ah oui, oui, autrefois, c'est possible, en voyage. » Avec un accent un peu espagnol, un peu viennois, valaque peut-être, où se mêlent des intonations presque faubouriennes de cabotine à la mode, et avec un petit rire tout rose, auquel il n'y a rien à objecter. Diantre, une aventurière, vous êtes romanesque. Vous croyez aux aventurières admises dans le monde où nous sommes, qui donnent des check-ins aux ambassadrices de tous les pays de la terre, et qui, à en juger par leur collier de perles fines agrafées de rubis, par leur robe qu'on ne voit jamais 2 fois la lumière des lustres, par leurs 4 équipages fameux entre tous du bois, dépensent environ 300 000 francs l'année? Non, Madame de Poleastro. Qu'elle ait été ou non Mademoiselle de Valclos, la princesse Saratov, Lady Emsford, n'est pas une de ces vulgaires coureuses de hasard qui échouent un jour ou l'autre quand les dupes ouvrent les yeux dans quelque ville scandale de palais de justice ou passe la frontière sur le conseil d'un juge d'instruction courtois. Nous sommes en présence d'un mystère bien autrement compliqué et nouveau. La marquise au millionnaire, probablement, sans qu'on sache d'où lui viennent ces millions, noble à coup sûr, sans qu'on puisse préciser son origine, prodigieusement polyglotte et délicatement lettrée, sans que personne ait appris en quel couvent de quel pays fut instruite son enfance, la marquise, italienne peut-être, slave sans doute, allemande, c'est possible, anglaise, je ne crois pas, est une de ces adorables et extraordinaires créatures connues de tous, bien que parfaitement inconnues, adorées, quoique suspectées, sans mari visible, sans amants avérés, jeune, belle, extravagante, un peu, qui apparaissant tout à coup pour bientôt disparaître, affole un hiver. Paris, dont elle raffole, et que, faute d'une désignation moins vague, comme les médecins nomment presque au hasard, d'un nom quelconque un peu sonore, une maladie récemment importée, on appelle les étrangères. Mais déjà Valentin n'écoutait plus le pâleur parleur compatissant. Il s'éloigna, après un remerciement vague, cherchant dans le bal quelqu'un qui pût le présenter à la marquise de Poleastro. Et quand il passait près d'elle, il se sentait le cœur tout noyé de délices à cause des yeux qu'elle avait, et des yeux bruns, un peu fauves de vénitienne, où souriait, mouillée comme une fleur, une mélancolie d'Ophélie. 2 mois plus tard, il était depuis 6 semaines l'amant de la marquise, Valentin entra dans le boudoir où elle l'attendait fidèlement, les après-midi avant l'heure des vaines visites. Et sans un baiser, lui prenant les mains, la regardant en face, du ton d'une résolution bien arrêtée, « Écoute-moi, je deviens fou. Il n'y a pas d'homme plus heureux que moi, il n'y en a pas de plus malheureux. » De mes premières prières, attendries, tu t'es donné avec la grâce confiante d'une enfant. J'ai eu l'étonnement délicieux d'un dévot prêt à accepter le martyre dans l'espérance du ciel, et qu'il obtiendrait tout de suite ce ciel pour s'être agenouillé une seule fois. Oh, quel paradis! Tous les rêves, je les ai baisés sur tes lèvres. Tu es en fleurs partout. Quand tu me laisses mettre mon front dans tes mains, sur ta gorge, il me semble que ma pensée se roule dans du printemps, dans un printemps inconnu, lointain, fait d'épanouissements chimériques et de parfums jamais respirés. Et tu n'es pas seulement exquise, tu es bonne. Tu m'aimes comme je t'aime, je le sens, je le sais. N'est-ce pas que nous nous aimons? N'est-ce pas que ton cœur tremble quand mon pas monte l'escalier, tremble comme le mien, et que tu défailles le soir dans mes bras, comme entre les tiens je meurs, et que nous sommes éternellement unis dans le même délice. Caro mio, dit-elle avec l'accent d'une cantatrice russe qui chante en italien. Il continua. Eh bien, toi heureux comme nous le sommes, je souffre horriblement, et cette souffrance, je ne peux plus la supporter, muette. Il faut que je parle, et que tu parles aussi. Des doutes me déchirent. Bon, tu parleras, tu ne me cacheras rien. Écoute bien et réponds. Chez toi, où suis-je? Ces domestiques, cet hôtel, tout ce luxe somptueux et charmant, car tu y mets ta grâce, d'où te viennent-ils? D'où viens-tu toi-même? Qui es-tu? Tu gardes la mémoire de bien des jours et de bien des pays. Il y a dans les choses que tu dis au hasard, sans penser, des réminiscences de voyages, d'aventures. Tu es si jeune, cependant. Pourquoi ton accent par moments se transforme-t-il comme si toi-même tu devenais d'une autre race? Il semble que, d'un mot à un mot, tu as changé de patrie. Où es-tu né? As-tu des parents encore? Es-tu marié? Oh, je t'en prie, ta vie passée, ta vie d'à présent, dis-les-moi, est-ce que tu ne dois pas tout entière avec tous tes secrets, comme avec tous tes charmes, à celui qui t'appartient pour jamais? Elle avait retiré ses mains. Elle le considérait d'un œil froid, net, où luisait une colère. Alors, lui, presque rudement, mais tu parleras. C'est que j'ai le droit de savoir, il faut que tu le dises. Ne devines-tu pas quels étranges soupçons me hantent? Ne songes-tu pas à ce que je puis penser? Allons. Et il lui reprenait au poignet les deux bras. La vérité, je le veux. Vous me faites mal, dit-elle d'un ton glacé avec un accent allemand sincère. La vérité. Soit, tant pis pour vous. Et le regardant bien en face, sans trouble. Je suis né dans une petite ville de Poméranie. Pauvre, pas de parents jolis, je suis parti avec des saltimbanques, et de foire en foire dans tous les pays. J'ai chanté dans des cafés-concerts. À Vienne, j'ai eu un mari qui était employé au ministère des Affaires étrangères. Il est mort il y a 7 ans. Que je suis au service du gouvernement autrichien. Une espionne, elle, si jolie, avec ce rire rose et ses vagues yeux rêveurs, elle faisait ce vil métier de surprendre, de vendre les âmes. C'était à cela qu'elle employait sa séduction, sa grâce. C'était à cela peut-être qu'elle faisait servir ses amours. Plein d'horreur, il fut sur le point de crier. Ce n'est pas vrai, tu mens. Hélas, le doute était impossible. Une espionne, en effet, puisqu'elle l'avouait. D'ailleurs, cette parole affreuse expliquait tout, le schlux, les changements de nom, les voyages, les nationalités diverses. Il s'enfuit avec un geste de dégoût, s'enferma chez lui pendant 2 semaines pour ne plus la revoir, parti pour un voyage et ne la revit plus. Mais il a des souvenirs tenaces. Bien des fois, l'image de l'adorable infâme lui revenait à la pensée, en même temps qu'aux lèvres un nom cher et méprisé. Un soir, à Vienne, sous les arbres du Prater, il conta toute son aventure à un jeune gentilhomme autrichien pour lequel il s'était pris d'une vive amitié, et qui était précisément le secrétaire intime du ministre des Affaires étrangères. C'est singulier, dit l'Autrichien. Et le lendemain, Valentin recevait une lettre où son ami lui affirmait, après une minutieuse enquête, que jamais Madame de Poléastro, ni Mademoiselle de Valclos, ni la princesse Saratoff, ni Lady Hemsworth, ni aucune personne ayant avec la marquise quelque analogie de situation ou d'apparence, n'avait été attachée officiellement ni secrètement au service du ministère. De sorte qu'elle s'était vantée d'être une espionne, peut-être pour mieux cacher quelque mystère plus abominable encore. Mais qui donc êtes-vous, adorables et extraordinaires créatures, connues de tous, bien que parfaitement inconnues, adorées, quoique suspectées, sans mari visible, sans amants avérés, jeunes, belles, extravagantes un peu, qui apparaissant un instant pour bientôt disparaître, affolez un hiver Paris dont vous raffolez, et que, faute d'une désignation moins vague, comme les médecins nomment presque au hasard d'un nom quelconque, un peu sonore, une maladie récemment importée, on appelle les étrangères.